Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc pour de nouvelles lectures en liberté et la suite du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Le fusil calé contre son dos, Gus descendit le chemin du Braque au plus vite. En arrivant chez Abel, il prit un temps avant de pousser la porte, comme si l'attente pouvait changer quelque chose à ce qu'il y avait derrière. Quand il se décida à entrer, les deux corps étaient toujours là, dans la même position que la veille. La scène et le silence oppressant aurait pu être de nature à faire sombrer Gus dans une forme de terreur. Mais les rouages de son cerveau étaient déjà en marche, ses gestes respectant la moindre des choses qu'il avait décidées durant la nuit et révisées tout au long du trajet. Il essuya son fusil avec un mouchoir, pour qu'on ne retrouve pas ses empreintes dessus. Il eut des difficultés à positionner l'arme dans les mains d'Abel, tant le corps était devenu rigide. Gus se dit qu'ainsi on croirait qu'Abel avait tiré sur son fils et l'avait tué, et que dans la bagarre, il s'était cogné la tête contre une arête de la table en plein sur la tempe. Un tragique enchaînement de petits accidents qui en avait entraîné un grand. Il réfléchit ensuite à tous les objets qu'il avait touchés, la chaise qu'il avait utilisée, le verre dans lequel il avait bu, et entreprit de les frotter avec son mouchoir. Par précaution, il passa un coup sur la table et la poignée de la porte d'entrée, puis il chercha où Abel pouvait bien planquer son fusil. Il finit par le trouver dans la chambre, reposant contre la tête du lit, se souvenant qu'Abel lui avait raconté qu'il le tenait toujours chargé près de lui, pour le cas où un loir viendrait le narguer en pleine nuit. Jamais il n'avait cru à cette histoire. La présence de l'arme était certainement faite pour dissuader les fantômes qui devaient rendre visite au vieil homme pendant la nuit, tout au moins tenter de les tenir à distance. Gus se libéra de ses pensées et poursuivit la mise en pratique du plan qu'il avait conçu. Qui saurait que c'était l'arme de Gus qu'Abel cramponnait en cet instant. Gus s'attarda dans la chambre, sans réellement comprendre ce qui l'attirait. Les peluches aperçues lors de sa première visite étaient toujours posées sur une chaise, avec les yeux brillants, semblant suivre le moindre de ses mouvements. Personne ne lui avait jamais acheté de telles babioles quand il était petit, ou peut-être qu'il ne s'en souvenait pas, et qu'elles avaient fini à la poubelle, ce dont il tenta de se convaincre un court instant. Près du lit, il y avait une table de chevet sans rien dessus, et rien dans les tiroirs non plus. Tout ce que Gus touchait, il le faisait en utilisant son mouchoir pour ne pas laisser d'empreintes. En face du lit, une grande armoire s'élevait presque jusqu'au plafond. Gus en ouvrit les deux battants. L'intérieur était garni de linge, des draps, des chemises et même une pile de napperons rudement bien ouvragés qui, à eux seuls, baladaient une époque où les femmes prenaient du temps pour cette sorte de belle inutilité. Gus remarqua également un petit coffre en bois posé sur l'étagère la plus basse. Il hésita à jeter un coup d'œil à l'intérieur, puis se dit que fouiller les affaires d'un mort ne prêtait plus à conséquence, que ça ne pouvait plus porter tort à quiconque. À ce moment-là, Il était loin de se douter de ce qu'il allait découvrir à l'intérieur et qu'il l'accompagnerait le reste de sa vie avec encore plus de force que tout le reste. En soulevant le couvercle, Gus découvrit une photo toute craquelée, avec dessus quelqu'un qu'il connaissait bien et qu'il n'avait jamais vu aussi jeune et souriante, presque belle. Quelqu'un qui avait été sa mère, sans aucun doute possible. À l'intérieur du coffre, il découvrit aussi un petit bracelet en tissu bleu, juste assez large pour mettre autour de la patte d'un oiseau et... Gustave Targaud. Dessus, en lettres d'imprimerie. Le cœur de Gus s'emballa comme s'il était sur le point de faire un trou dans sa poitrine pour sortir chercher plus d'air au dehors. Il attendit que la sarabande infernale se calme un peu avant de saisir les derniers objets gisant dans le fond du coffre, tels des corps endormis. Deux lettres, soigneusement conservées, que Gus déplia, puis lut, en sachant très bien que les mots écrits dessus allaient enfoncer encore un peu plus le clou de sa misère. La première était une lettre d'amour, comme il n'aurait jamais pensé que sa mère fût capable d'en écrire, et la seconde, une lettre de rupture, de la même main, et tout aussi bien tournée que la première. Ces deux mêmes lettres qu'Abel avait lues et relues sa vie durant, sur lesquelles il s'était usé les yeux et certainement plus. Gus fut pris de vertige. Il lâcha les lettres qui semblèrent glisser sur un toboggan invisible avant de disparaître de son champ de vision. Il était le fils d'Abel. Et du coup, il comprenait pourquoi ses parents l'avaient autant détesté et pourquoi il se haïssait. Son père, parce qu'il devait savoir qu'il élevait un bâtard, et sa mère, parce que son fils lui rappelait sans cesse ce qu'elle avait fait et probablement aussi pas osé faire. Gus imaginait ce qui avait bien pu germer dans la tête d'Abel après la mort de sa mère. L'idée que ce fils illégitime, mais normal, celui-là, se rapproche de lui d'une façon ou d'une autre. Gus crut d'abord rêver en entendant des coups sur la porte d'entrée. Il lui fallut un temps avant de réaliser que c'était bien la réalité et pas le fruit de son imagination. Sa première réaction fut de se dire qu'il était perdu si quelqu'un entrait dans la pièce où gisaient les deux cadavres. Il se précipita à la fenêtre pour voir qui frappait. De son poste d'observation, il distinguait le bolide aperçu sur la place du village, garé dans la cour. Putain, le suceur de Bible ! Gus se dit qu'il fallait qu'il s'en débarrasse, d'une manière ou d'une autre. Il retourna dans la chambre, chercher le fusil d'Abel et le déposa à portée de main, contre la cloison, derrière la porte d'entrée. Il craignait que ce soit l'évangéliste de l'autre jour. Ce dernier le reconnaîtrait alors et ne comprendrait pas ce qu'il faisait chez Abel. Gus jeta un coup d'œil à l'arme et entr'ouvrit la porte. Il fut soulagé de constater qu'il s'agissait d'un autre suceur de Bible, venu seul et visiblement pas là pour le convertir aux évangiles. On lui donnait la quarantaine à tout casser. Gus ne prit pas le temps de détailler son visage, mais remarqua tout de même l'anneau qui pendait à son oreille gauche, avec une croix accrochée dessus, qui ressemblait à un vautour posé sur une balançoire. Le type portait des bottes de neige et un manteau avec de la fourrure intérieure qui dépassait du col. C'était idiot de se laisser aller à des idées pareilles, mais Gus se dit peut-être que dans une autre vie, il pourrait se payer une telle veste. « Excusez-moi de vous déranger, je suis à la recherche de Gustave Targaud, » dit le type. Gus sentait une certaine méfiance dans sa voix, comme quand quelqu'un se retrouve quelque part et qu'ailleurs lui conviendrait mieux. « Alors, vous n'êtes pas au bon endroit, il habite pas ici, » répondit Gus avec autant de fermeté qu'il pouvait en dénicher en lui en cet instant. Ben, « Je sais où il habite, on m'a renseigné, mais il n'y a personne chez lui, alors je me disais, mais qui vous a renseigné ?» Un homme qui descendait la route qui mène jusqu'à la ferme de Targot. « Et il était comment cet homme ?» demanda Gus, intéressé par l'identité du mystérieux visiteur. « Ben, je crois bien que je n'en ai jamais vu d'aussi large. » Gus accusa le coup. Il n'y avait qu'un seul homme de cette corpulence et il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de Jean Paradis. Mais qu'est-ce que cet enfoiré faisait à cet endroit-là, à ce moment-là ? Il revenait forcément des doges, et à part un mauvais coup, que serait-il venu trafiquer ? Certainement pas parler, car Gus avait été très clair lors de leur conversation chez Perrault. L'empoisonnement de Mars était le genre de saloperie dont était capable Paradis pour se venger de l'affront subi au bistrot. Gus réalisa alors qu'il s'était probablement trompé sur toute la ligne en accusant Abel à tort. Pour l'heure, le plus compliqué était de garder son sang-froid, étant donné qu'il y avait deux Maccabées allongés derrière lui à 5 mètres à peine, et que l'un d'eux était son vrai père et l'autre son demi-frère. Il reprit partiellement ses esprits et dit « Je ne sais pas où il est, celui que vous cherchez. » « Dommage. Pourquoi vous en avez après lui ?»« Je souhaiterais lui poser quelques questions. » « Je le connais bien et je peux vous garantir qu'il n'est pas homme à répondre à celle d'un étranger. Bah, »« Quelque chose me dit qu'il sera pourtant obligé de le faire. »« Vous avez l'air bien sûr de vous. »« Je vous remercie de votre coopération. »« Peut-être à une autre fois, » dit le type, manifestement pressé de couper court à la conversation. Bah, « Ça m'étonnerait fort. » Oh, la parole de Dieu est aussi pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur et il n'y a aucune créature qui soit cachée de lui. Bah, vous avez pêché ça dans la Bible, je parie. Des paroles comme celle-là n'ont jamais mené personne à rien de bon. C'est ce qu'on fait qui décide, pas ce qu'on dit. Bah, j'imagine que c'est l'expérience qui parle. Appelez ça comme vous voulez. À mon âge, j'ai appris à plus pisser contre le vent. Il m'est avis que vous gagneriez du temps à soulever des pierres et à parler aux arbres, vous auriez plus de chance d'être entendu. Le Gus n'est pas par ici. Il faut le chercher ailleurs. Et je vous conseille plutôt de le laisser tranquille. De toute façon, vous lui décrocherez pas deux mots. C'est une affaire entre lui et moi. Ce que vous auriez de mieux à faire, c'est de repartir d'où vous venez et de rentrer chez vous bien au chaud. Mais c'est pas ce que vous allez faire, pas vrai ? Mais on peut rien vous cacher. Prenez quand même le temps de réfléchir à ce que je viens de vous dire. La vie, c'est pas ce qu'on peut lire dans vos livres. Je vous remercie du conseil. Ne me remerciez pas. J'imagine que vous avez mieux à faire qu'interroger un vieux fou qui sait rien de ce que vous voulez savoir et qui donne des conseils que vous suivrez manifestement pas. Au revoir, monsieur Dupuis. Pardon ? Dupuis, c'est bien ainsi que vous vous appelez. Sûr, mais pour tout le monde, je suis Abel. Évidemment.
Skip the life and dance. kiss at first, just go sleep. Turn the wider shade off.
En liberté, Denis Flagel.
Après notre habituelle pause musicale, nous revenons au roman de Frank Buis, Grossir le ciel. Gus referma la porte au nez du type. Posté derrière une fenêtre, il le regarda s'éloigner, monter dans sa voiture, démarrer et partir. Puis attendit quelques minutes avant de sortir en portant le fusil d'Abel. Il n'aimait pas la façon dont l'évangéliste avait dit « évidemment », sans desserrer les dents ni son regard. Celui d'un homme qui justement vient de soulever une pierre et, certainement pas, une de celles que Gus lui avait conseillé de basculer. Ce genre de type était capable d'écouter et, sans avoir l'air d'y toucher, de balancer la question qu'il avait en tête depuis le début. Il faisait penser à un de ces fouineurs qu'on voit dans les feuilletons télévisés et qui finissent toujours par deviner ce que les gens pensent. Sauf que Gus ne voyait pas ce qu'il y avait à deviner. Au moins, il avait gagné du temps, et il était clair que l'évangéliste ne l'avait pas reconnu. Gus avait joué son rôle au mieux en essayant de noyer le poisson pour que l'autre ne se doute de rien. Mais il avait pourtant la désagréable sensation que le suceur de Bible n'allait pas en rester là. Que c'était pas la dernière fois qu'il le voyait, même s'il pensait avoir été crédible en endossant l'identité d'Abel. Les choses se compliquaient pour Gus. Un témoin l'avait maintenant vu chez Abel et il serait bien en peine de donner une explication plausible. La question qui le tarabustait, c'était pourquoi l'évangéliste le cherchait ? Gus remonta le chemin du Braque pour vérifier que l'autre n'avait pas pris la direction de sa ferme. Arrivé au carrefour, il s'aperçut que ce n'était manifestement pas le cas. Les marques de pneus toutes fraîches bifurquaient sur la gauche, en direction de Grisac. Gus fila alors vers les Doges. Une fois arrivé à la ferme, il se rendit à l'étable et détacha les vaches et les veaux. Ensuite, il ouvrit les portes en grand. Les bêtes n'avaient pas l'air de comprendre ce qui se passait, ni de vouloir aller dans le froid. Il fallut que Gus les pousse pour qu'elles sortent dans la cour. Les veaux suivirent leur mère en sautant comme des cabris. Tout ce petit monde tourna et vira un moment en meuglant avant d'enfiler le passage donnant dans le pré du bas. En reniflant la neige, les bêtes faisaient voler des petits paquets de poudreuses que le soleil transformait instantanément en paillettes. Gus ne savait pas ce qu'elles allaient faire de cette liberté toute neuve, mais il n'avait pas de plus beau cadeau à leur offrir, pensant qu'après tout, les animaux se débrouillent toujours pour survivre à tout. Est-ce qu'ils seraient capables d'une chose pareille ? Il se demandait ça, en se remémorant une conversation qu'il avait eue un jour avec Abel à ce sujet, et à l'issue de laquelle il avait conclu que les humains et les animaux n'étaient pas si différents, que c'était même une des lois de la nature, une vérité dont Gus ne s'était jamais senti aussi proche qu'en cet instant. Il alla ensuite ouvrir les clapiers, ainsi que la volière, sans s'attarder pour vérifier si les lapins et les poules trouvaient la sortie. Puis, il rentra dans la cuisine. En posant son regard sur la télé éteinte, il crut apercevoir le visage de l'abbé sur l'écran et entendre sa voix qui lui disait qu'il fallait aimer son prochain et l'aider. Sauf que des prochains, Gus n'en avait plus un seul sur cette terre. Il était bel et bien seul et il trouvait que c'était déjà trop. Ses yeux se posèrent alors machinalement sur le calendrier des postes, accroché par une pointe à un des montants du chambranle de la porte d'entrée, avec sur la couverture un fier épagneul tenant une bécasse morte dans sa gueule. Puis son regard dériva à quelques centimètres sur la droite et se figea là où, auparavant, se trouvait la clé découverte quelques jours plus tôt dans la forêt. Elle avait disparu. On était le 30 janvier. Noël était passé depuis un mois. Dans sa jeunesse, Gus avait eu un aperçu de ce que Noël pouvait signifier pour les autres. Le jour où la mémé lui avait offert un livre intitulé « Noël d'amour », avec un sapin sur la couverture, des boules de toutes les couleurs accrochées aux branches des pantins et une grosse étoile brillante fixée à la cime. Il avait alors imaginé que le bonheur ressemblait à un sapin coloré, quelque chose qu'on serait fier de montrer aux gens qu'on aime, si de tels gens existaient. Un projet qu'il n'avait jamais pu toucher du doigt, ni même effleurer. Depuis qu'il vivait seul, Gus avait passé chaque Noël en compagnie de son chien, à manger et boire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de manger et boire le reste de l'année, comme du vin bouché, de la brioche au beurre, du jambon blanc et des anchois. Du coup, c'était pour lui un jour comme les autres, sans l'être vraiment, parce que personne ne peut empêcher le monde de tourner et que c'était dans ces moments-là, plus que tout autre, qu'il réalisait que le vaste monde ne tournait pas dans le même sens que le sien. Et puis, il y avait eu ce fameux jour de Noël, où Gus avait trouvé trop bête d'être à deux pas de chez Abel et de ne pas trinquer ensemble. Une sorte de fulgurance. Il s'était alors rendu chez Abel, avait frappé à sa porte. Quand ce dernier avait ouvert, Gus s'était engagé à l'intérieur sans prendre le temps de regarder dans quel état se trouvait son hôte. À l'époque, Gus n'avait pas connaissance de tout ce qu'il savait désormais. « Salut !» Je me suis dit qu'on pourrait boire un coup à cette année qui se termine et à celle qui va suivre, avait dit Gus en brandissant une bouteille de vin. Pourquoi on ferait ça? Avait dit Abel, la mine défaite, comme s'il avait picolé une semaine entière. C'est un jour pareil aux autres, avait-il ajouté. Pas vraiment, vu que c'est Noël. Tu te rappelles pas? Ben et alors? Ben... C'est un peu le jour où on se retrouve en famille pour se faire des cadeaux et comme on n'en a pas vraiment de famille, toi et moi, j'ai pensé que ce serait une bonne occasion pour siffler une bonne bouteille. T'as pensé ça, toi?
Ouais.
mais apparemment c'est pas une bonne idée que j'ai eue. Ben, c'est juste pas le bon jour. Il t'est arrivé un malheur aujourd'hui? Si je peux t'aider... T'es bien gentil. Mais tu pourrais pas m'aider, même si tu le voulais. Tu es malade? Tu as une bête qui te fait du souci? Mes bêtes se portent bien, et si tu veux parler d'une maladie qu'on peut guérir par un docteur et des médicaments, c'est pas ce genre-là. Bah, tu m'inquiètes, Abel. Je t'ai jamais vu abattu de la sorte. Faut pas t'inquiéter, ça va passer. Ça finit toujours par passer. En dernier recours, Gus souleva à bout de bras la bouteille qu'il avait emportée pour essayer une dernière fois de faire changer Abel David, dit « T'es bien sûr que ça ne te fait pas envie. C'est le seul médicament que je connaisse qui guérit tout. Sûr !» Et puis, je ne serai pas de bonne compagnie, même avec un coup dans le cornet. Ça m'ennuie vraiment de te laisser seul dans cet état. Faut que tu le saches. Te bile pas inutilement, Gus. Allez, rentre chez toi maintenant et reviens avec ta bouteille dans 2 ou 3 jours. Je te promets qu'on lui fera un sort. Comme tu voudras. Mais si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver. J'en changerai pas. Gus était sorti là-dessus et Abel avait refermé la porte. Un mur supplémentaire entre les deux hommes. Ce jour-là, Gus s'était dit qu'il devait y avoir des choses qu'il ne savait pas sur Abel. Des choses qui étaient revenues dans la tête de son voisin ce 25 décembre-là et qui ne semblaient pas lui faire du bien, un secret qu'il gardait pour lui sans pouvoir le partager. Gus se souvenait d'être ensuite remonté au doge en sifflant la bouteille en chemin, bien loin d'imaginer que c'était un soir de Noël, qu'Abel avait perdu sa femme en couche. Gus sortit au-devant de l'air frais et de l'espace. Il constata vite que marcher était plus facile que rester immobile et que ça le rendait un peu plus imperméable aux intempéries de son existence. Il arriva dans la forêt à bout de pensée, racla la neige recouvrant une souche de chêne et s'assit dessus pour tenter de faire le point sur la situation. Il n'y parvint pas. Il avait constamment l'impression que quelque chose était tapi dans les bois, quelque chose qui faussait sa réflexion comme un aimant affolant l'aiguille d'une boussole. Peut-être était-ce un animal traqué, ou un double de lui-même qui allait d'arbre en arbre pour ne pas se faire repérer, ce genre de fantôme. Le printemps était encore bien loin à venir. Aigus se disait qu'il ne le verrait pas se pointer de la même façon que tous ceux qui avaient précédé. D'une manière ou d'une autre, ce ne serait pas un de ceux avec des jonquilles au bord du ruisseau, des oiseaux qui sortent des nids, des bourgeons qui débourrent aux premières chaleurs et des saignées dans la terre. Ce ne serait pas un printemps comme ça. Plutôt un hiver, en désespoir de cause. Une saison avec un soleil dans le ciel qui ne parviendrait pas à trouver sa place entre les nuages, du froid, jusque dans les os, au plus profond. Gus revit Abel sur son vieux tracteur Renault de couleur orange qui rappelait un temps où les affaires n'allaient pas si mal. Un temps où la peinture ne se décrochait pas encore de la tôle. Un temps où ses dents pouvaient mâcher autre chose que du bouillon et croquer du chocolat sans attendre de le laisser fondre. Il se souvint également des mots qui revenaient souvent dans la bouche d'Abel, signifiant qu'ils se ressemblaient tous les deux. Gus trouvait que ce n'était pas faux. Faut croire que la terre, elle tord les hommes de la même manière et qu'on finit par tous se ressembler, lui avait-il répondu. Et Abel de lancer en retour, tu dois avoir raison, fils, bougrement raison sur ce point. À l'époque, Gus ne comprenait pas que ce n'étaient pas des paroles en l'air, que c'était la pure vérité, une putain de vérité à laquelle il n'avait pas encore accès. Ça lui en mit un coup supplémentaire derrière la tête. parce qu'il ne pouvait rien contre la rouille, encore moins que la veille, il le savait bien. Et son cerveau n'en finissait pas de s'éterniser là-dessus. Nous avons donc terminé pour ce soir la lecture du roman de Frank Buys, Grossir le ciel. Nous nous retrouverons demain pour la suite et la fin de ce roman. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.